Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
La joie du Brésil rouge cette nuit. Leur champion Lula revient au pouvoir, vainqueur d'un cheveu de l'élection présidentielle, 50,9% des voix. Et au lendemain de cette victoire, plusieurs questions, à commencer par celle que pose le silence de l'adversaire du vaincu, Jair Bolsonaro, président sortant d'extrême droite. Il n'a pas dit un mot en public et s'est visiblement couché de bonne heure hier soir. Notre invité, Gaspar Estrada, politologue et directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, que veut bien vouloir dire ce silence de plus en plus assourdissant de Jair Bolsonaro ?
Je pense que c'est la traduction de l'isolement du président sortant, étant donné que ses principaux alliés, que ce soit le président de la Chambre des députés, son propre ministre de la maison civile de la présidence, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre, ont reconnu la victoire de Lula. L'ancien ministre de la justice de Bolsonaro et ancien juge qui a condamné Lula en 2018, Sergio Moro, a lui aussi reconnu cette défaite du camp présidentiel. Donc je pense qu'il y a surtout une hésitation de la part de Bolsonaro, ne pas reconnaître le scrutin publiquement, le faire, mais à contre-cœur. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, Bolsonaro est pris à son propre piège.
Quel était ce propre piège ?
Ce piège, c'est-à-dire il souhaitait éviter la victoire de Lula.
Il avait émis tout au long de la campagne des réserves sur le mode de
Absolument.
Scrutin. Voilà.
Critiquant le système électoral, appelant à ce que l'armée fasse un audit des urnes. Et finalement, le système a très bien fonctionné. Tout le monde a reconnu cette victoire, y compris des membres de la majorité. Je pense que c'est la grande différence.
Le président de la Chambre des représentants et puis le gouverneur de l'État de Sao Paulo, ça aussi,
bien
qui
sûr.
A basculé du côté bolsonariste, on y reviendra. Mm-hmm. Donc, il n'a plus d'autre choix que de reconnaître sa défaite.
Voilà.
Et pourquoi il ne la reconnaît pas publiquement ?
Parce que, justement, il sait pas comment réagir. Je pense qu'il a été surpris. Il pensait remporter ce scrutin. Je pense qu'il y a aussi un côté psychologique. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de facteurs qui sont en jeu pour l'avenir du Brésil. S'il reconnaît sa défaite, il devient le leader de l'opposition. Mais encore faut-il qu'il reconnaisse cette défaite et ce n'est pas encore gagné.
Alors, il y a une défaite, effectivement, face à Lula, à quelques millions de voix près. Mais il y a aussi une progression entre deux élections présidentielles. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la dernière élection présidentielle aux États-Unis où Trump a certes été battu, mais où le trumpisme n'a pas été vaincu, il a même progressé à travers le pays.
Oui, on peut le voir, mais surtout, je pense que là, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que Trump a maintenu une cohésion au sein de sa base politique, de sa base sociale, mais y compris auprès de ses alliés. Aujourd'hui, la plus grande partie des dirigeants républicains contestent l'élection de Joe Biden, disent qu'il y a eu une fraude électorale. Or là, comme vous l'avez mentionné, le gouverneur de Sao Paulo, le président de la Chambre des représentants, tous reconnaissent la victoire de Lula. Et ça, je pense que ça traduit, ça contribue à isoler la position de Bolsonaro.
Alors, le Congrès, donc le pouvoir législatif au Brésil, lui, n'a pas voté, enfin n'est pas représentatif de l'exécutif, c'est-à-dire que ce sont les bolsonaristes, les alliés de Jair Bolsonaro qui ont la majorité. Est-ce que le pouvoir législatif brésilien est comparable à celui des États-Unis ou de la France, par exemple ?
Non, tout simplement parce que le Parlement brésilien est beaucoup plus fragmenté dans la législature qui se termine. Il y a près de 30 partis qui sont représentés au Parlement dans la législature qui va être inaugurée fin janvier.
On
n'est
pas
janvier.
Dans un système bipartisan
non.
qui écrase tout.
On est au contraire dans un système...
Habitué à quelque chose de très fractionné comme ça.
Non seulement pas de système bipartisan, mais surtout, il y a beaucoup de plasticité au sein de ce pouvoir législatif.
On forme des alliances systématiquement. Quoi.
Voilà. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes élu dans le parti de Bolsonaro que vous allez faire forcément une opposition farouche au gouvernement Lula. Il ne faut pas oublier que ce même parti qui a postulé Jair Bolsonaro, le Parti libéral, faisait partie de la coalition de Lula en 2002. Donc, y a beaucoup de retournements d'alliances possibles, y compris parmi des parlementaires de droite. Et il ne faut pas oublier que Lula, lorsqu'il a été président du Brésil de 2003 à 2010, a gouverné avec une coalition qui allait de la gauche radicale au centre droit. Et aujourd'hui, je pense que Lula va faire de même et il va, je pense, aller beaucoup plus loin puisqu'il a nommé comme colistier un dirigeant de droite, Geraldo Alckmin, et très
qu'il avait battu lors de sa première élection en 2002.
6.
En 2006, de sa réélection, voilà, excusez-moi. Heureusement exactement. Que vous êtes là, Gaspard Estrada. Alors, va-t-on revoir justement le Lula d'antan, celui qui entre 2003 et 2011, j'espère que je ne me trompe pas, atteignait des sommets de popularité, lançait la fameuse Bolsa Familia, sorte de revenu universel pour les plus modestes, et affichant des résultats spectaculaires en matière d'éducation. Est-ce qu'il a autant les coups des franges qu'à l'époque ? Cette victoire est quand même infime, c'est joué à très très peu.
Ça se jouait à très peu. Le contexte international a aussi évolué. L'économie brésilienne aussi ne va pas très bien. En revanche, certains fondements économiques du Brésil sont bien meilleurs en 2022 qu'en 2002. Je pense notamment les réserves de change. Plus de 370 milliards de dollars de réserves de change aujourd'hui, alors qu'à l'époque, le Brésil avait un prêt de 30 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Ce qui est clair aujourd'hui, et on le voit à travers le discours d'hier du président Lula, c'est que je pense qu'il y a deux priorités. La première, c'est retrouver une normalité démocratique, une stabilité institutionnelle qui fait défaut aujourd'hui au Brésil compte tenu de cette polarisation très grande.
Pour que les auditeurs comprennent bien, oui. Aujourd'hui, si on se promène dans les rues des grandes villes, vous avez ceux qui ont une casquette rouge et ceux qui sont habillés en doré et bleu. Donc, le rouge, c'est pour le camp de Lula et le doré et bleu, c'est pour les bolsonaristes. Un pays très, très, très fragmenté.
Très polarisé.
À l'image
très
de ce tendu. Résultat du deuxième tour.
Absolument. Voilà. D'où cette idée de tendre la main aux électeurs qui n'ont pas voté pour Lula au deuxième tour, d'où cette idée que je pense qu'il faudrait que Lula mène à bien un gouvernement de transition pour revenir à un minimum de vivre ensemble, de cordialité, de consensus dans un pays extrêmement polarisé. Et d'autre part, la question économique, c'est-à-dire faire en sorte que le gouvernement et le Brésil retrouvent la croissance économique, recréent des emplois et donc diminuent la faim, diminuent la pauvreté, diminuent les inégalités. D'où cette volonté de Lula d'attirer des investissements étrangers, justement pour doper la création d'emplois, d'où cette volonté de Lula de voyager à l'étranger assez rapidement. Un, pour affirmer la présence du Brésil sur la scène internationale, renforcer la place de Brasilia dans les grandes questions climatiques internationales qui sont l'une des priorités de la communauté internationale.
On parlera évidemment du climat dans quelques instants. Nous sommes avec le chercheur Gaspard Estrada. Vous restez encore quelques minutes avec nous. Nous avons des auditeurs au standard qui voudraient vous parler. Nous revenons dans quelques instants sur Europe.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous parlons de la présidentielle au Brésil qui a vu l'ancien président Lula revenir au pouvoir d'une très courte tête, 50,9% face à Jair Bolsonaro. Lula l'emporte, mais le bolsonarisme aussi, quelque part. Nous sommes avec Gaspard Estrada et vous nous appelez au standard. Nous sommes avec Florent. Vous, si j'ai bien compris, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône et vous ne comprenez pas trop le choix des Brésiliens de s'être rangé derrière Lula. C'est bien ça ? Bonsoir, Florent.
Oui, bonsoir, messieurs. C'est tout à fait ça. Moi, je trouve qu'on a tendance à faire trop excès de bienveillance avec monsieur Lula. Parce que je tiens qu'il est, il faut quand même être honnête intellectuellement, il tient à rappeler que ce monsieur a été condamné le 12 juillet 2017 pour blanchiment d'argent public et corruption passive, ainsi que pour l'affaire Lava Rato, le lavage express, qui était des pots de vin concernant des attributions de certains marchés publics. Et comme vous le savez, dans un gâteau, on rajoute toujours la cerise. On a aussi le droit à l'affaire Petrobras, qui est l'histoire du pétrole, sur lequel il y a eu des contrats publics surfacturés. Donc je pense qu'en termes de respectabilité politique, de ce fait-là, on a eu mieux. C'est peut-être pour ça que M. Mélenchon, d'ailleurs, est son grand ami.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas caché sa joie hier. Merci de votre contribution, Florent. On peut même préciser que le juge qui avait condamné Lula à de la prison a reconnu sa victoire hier, le fameux Sergio Moro, Gaspard Estrada.
Oui, alors je veux juste préciser, je pense qu'il faut dissocier deux choses. En effet, il y a eu des scandales de surfacturation dans le gouvernement Lula, comme il y a eu aussi des scandales de corruption liés à cette entreprise publique dans les gouvernements de Cardoso, puis de Dilma Rousseff, y compris de Michel Temer. Cela étant dit, en ce qui concerne le cas de Lula, et notamment sa condamnation, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lula a été condamné sur des faits, en effet, de blanchiment d'argent et de corruption passive. Mais dans cette même condamnation, le propre juge Moreau a reconnu qu'il n'y avait pas pu obtenir de preuves quant à l'implication de Petrobras dans l'attribution de ces marchés et donc du cœur de l'affaire, c'est-à-dire le fait que Lula aurait reçu un pot de vin en échange de un appartement qu'il aurait reçu. Donc, de ce point de vue-là, le dossier était vide. Et d'ailleurs, dans la propre condamnation du juge Moreau...
On ne peut pas dire, Gaspard Estrada, oui, que Lula est corrompu.
Ah ben là, de fait, non, parce que dans la propre condamnation, il y a écrit dans le jugement que que Lula était condamné pour des faits indéterminés. Et ça, je pense que c'est un élément qui est très important de le souligner. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu de corruption dans les gouvernements des partis des travailleurs. C'est pour ça que je tiens à dissocier les deux. Il y a eu, en effet, des scandales de surfacturation dans ce gouvernement-là, de la même manière qu'il y a eu dans des gouvernements qui ont précédé Lula et dans des gouvernements qui lui ont succédé. Cela étant dit, en ce qui concerne personnellement l'ancien président, il n'y a pas, de fait, eu de réel cas de corruption.
Et puis rappelons que Lula, qui est quand même un candidat de la gauche, radicale au Brésil, est salué à l'international, notamment par les États-Unis. Je cite Joe Biden pas plus tard qu'hier, mais même Barack Obama avait une certaine affection pour Lula par le passé, Gaspard Estrada.
Voire même George Bush, voire même Nicolas Sarkozy, mais aussi Vladimir Poutine et Xi Jinping, et aujourd'hui les leaders de la gauche latino-américaine.
Alors, Lula va être intronisé président le 1er janvier prochain, si tout se passe bien. Et ça sera ma dernière question, Gaspard Estrada. Que peut-il se passer d'ici le 1er janvier prochain si Jair Bolsonaro reste muré dans le silence?
Alors, la transition doit avoir lieu puisqu'il y a même une loi qui existe à cet effet. Donc, la transition, elle doit s'opérer dans les heures qui à venir. Cela étant dit, il est clair que sans la coopération du gouvernement sortant, il sera très difficile pour l'équipe de transition d'estimer et de faire surtout un audit des comptes publics de la situation du gouvernement fédéral. Et il est clair que sans cet audit, sans ces informations, il sera difficile pour le gouvernement Lula, dans un premier temps, d'établir des priorités, notamment en matière d'économie. Et c'est ça, c'est là où les Brésiliens attendent le gouvernement.
Merci beaucoup, Gaspard Estrada. Je rappelle que vous êtes chercheur et que vous êtes président de l'Observatoire de l'Amérique latine et à Sciences Po également. Merci de nous avoir éclairé sur la politique brésilienne. Tiens, j'ai également un Brésilien sur le plateau, Eduardo Riancipel, qui est avec nous pour parler de ce qui se passe à Sainte-Soline. Je le dis pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas, vous êtes franco-brésilien, vous avez forcément suivi cette campagne, cette élection présidentielle.
Oui, bien
Bonsoir,
sûr.
Bonsoir, Eduardo Riancipel.
Bonsoir, et je suis bien sûr heureux de la victoire de Lula. C'est une victoire, je pense, pour le Brésil, bien qu'elle soit de justesse. Mais je crois que ça montre malgré tout qu'il y a eu une majorité, même si elle fut courte, pour préserver la démocratie et pour essayer de réconcilier un Brésil qui est sous tension maximale depuis plus de 4 ans maintenant. Et je crois que c'est une bonne chose pour la France et aussi pour le monde, mais pour le Brésil d'abord, que le Brésil ait mis un terme à l'expérience Bolsonaro.
Merci beaucoup, Eduardo Riancipel. Vous restez avec nous également, puisque quelques centaines d'opposants au projet de la méga-bassine de Sainte-Soline restent sur le site. Ce soir, ils étaient plusieurs milliers ce week-end, y compris des députés écologistes de la NUP. La situation a dégénéré, on en a beaucoup parlé sur Europe 1, près de 90 blessés, dont plus de 60 gendarmes. Les images sont terribles, mais pour qui? Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a envoyé 1700 gendarmes, le GIGN, des hélicoptères pour, au final, dénoncer l'éco-terrorisme, ou bien pour les élus écologistes, comme la députée Sandrine Rousseau, vu dans ce rassemblement où il y avait, d'après Beauvau, des fichiers S, une quarantaine membres de l'ultra-gauche, ou encore Yannick Jadot, ancien candidat à la présidentielle, ouvertement et vertement contredit par des jeunes cagoulés devant des caméras de télévision et dont la voiture a été tagué. Nous en parlons donc avec Eduardo Riancipel, porte-parole de Territoire de Progrès, allié de Renaissance, et Benoît Biteau, député européen écologiste, paysan et ingénieur agronome. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Alors messieurs, quelle lecture faites-vous des événements du week-end? Je commence par vous, Eduardo Riancipel.
Moi, je suis en désaccord avec toutes les actions de violence. Je suis contre toutes les actions qui s'opposent à des décisions de loi dans un État démocratique comme le nôtre. Et je trouve qu'il est dommage et inquiétant que de telles manifestations se déroulent. D'abord, elles étaient interdites.
Elles sont encore interdites jusqu'à mercredi.
Voilà, je crois qu'il faut le comprendre parce qu'il y avait justement ces risques de destruction, de violence, qui sont toujours dommages. Et je ne vois pas en quoi ça sert l'écologie et la cause de la protection du climat et de l'environnement. Je pense que dans un État démocratique, il faut respecter d'abord les règles démocratiques et les décisions qui sont prises dans l'État de droit. La construction de ce bassin, chacun le sait, a fait l'objet de permissions et de permis légaux qui ont été systématiquement attribués. Je peux comprendre qu'on peut être en désaccord, mais qu'on trouve des moyens pacifiques et intelligents de manifester et d'influencer éventuellement le public à sa cause, mais certainement pas de dégrader le matériel, de ne pas pratiquer des violences. Et c'est incompréhensible que des députés, des parlementaires aient pu rejoindre une manifestation qui était interdite, alors qu'ils sont les représentants de la loi, ils sont les fabricateurs de la loi, et qu'en plus on ait vu des parlementaires, y compris des députés Europe Écologie Les Verts, avoir des attitudes provocantes, provocatrices à l'égard des forces de l'ordre, et en situation peut-être de créer une situation qui dépasserait un petit peu toutes les limites. Donc je pense qu'il faut revenir à la normale, respecter les règles de la démocratie, que chacun les défende, mais on ne peut pas accepter que des projets qui sont légalement décidés puissent être comme ça remis en cause juste parce que des gens pensent autrement, qui se battent dans les règles démocratiques. Parce que sans quoi, c'est la porte ouverte à toutes les contestations, à toutes les formes de violence. Dès lors qu'un groupe n'est pas d'accord avec quelque chose, il pourra détruire, etc. Je pense que c'est pas bien. C'est une mauvaise piste à suivre pour l'écologie politique. L'écologie politique ne doit rien avoir avec les Black Blocs.
De l'écologie politique, qui n'est pas un Black Bloc, Benoît Biteau, quelle lecture vous avez-vous des événements du week-end ? Je rappelle que vous êtes député européen écologiste, paysan et ingénieur agronome.
Oui, j'étais sur place à Sainte-Soline pour montrer qu'on peut être élu et ne pas se satisfaire des décisions. Tout simplement parce que je me demande dans quelle démocratie on vit quand une manifestation est interdite, quand on parle d'une ressource qui s'appelle l'eau, qui dans la loi est qualifiée de patrimoine commun, qui convoque au moins une dimension, c'est celle du partage. Et en l'occurrence, là, tous les scientifiques s'élèvent pour dire que avec cette logique-là de stockage de l'eau, nous ne sommes pas dans les logiques de partage pour satisfaire tous les usages de l'eau, qui d'ailleurs sont hiérarchisés dans la loi qui s'appelle le Code de l'environnement, où la première priorité, c'est la satisfaction en quantité et en qualité suffisante d'eau potable. Ensuite, du bon état des milieux aquatiques, et là, on est sur un milieu aquatique particulièrement important qui s'appelle le Marais Poitevin, qui est la deuxième plus grande zone humide de France, qui est la plus grande zone humide européenne de la façade atlantique, qui est menacée par ces équipements pour satisfaire une agriculture qui télescope tous ces enjeux-là. Et la deuxième raison pour laquelle des élus ont participé à cette manifestation, c'est que tous les recours ne sont pas épuisés. Et donc, on est exactement dans la même configuration que ce qui s'est passé à Sivens, où à marche forcée, on avance sur des travaux, alors que toutes les autorisations, contrairement à ce que vous dites, monsieur, ne sont pas définitives, puisque des recours sont encore en place, qu'ils ne sont pas épuisés, et qu'il n'est pas logique de démarrer les travaux, alors que des recours sur le fond, sur la pertinence de l'usage de l'eau, sur le juste partage de l'eau, qui intègre d'ailleurs la projection qu'on doit avoir sur fond de changement climatique, où effectivement il faudra qu'on revisite notre relation à l'eau, et on ne peut pas continuer comme dans les logiques du XXe siècle. C'est la raison pour laquelle, d'une, on conteste l'illégalité de cette manifestation dans cette démocratie, parce que pour les raisons que je viens de dire, et surtout parce que scientifiquement, ces projets ne tiennent pas quand on regarde un petit peu la façon dont on veut partager l'eau. Et je sais de quoi je parle, puisque je suis un ancien scientifique, spécialiste, enfin on n'est jamais ancien scientifique, mais ancien chercheur, spécialiste de ces sujets-là, et je peux vous assurer qu'on engloutit de l'argent public dans des fausses bonnes idées, dans des fausses bonnes réponses, et surtout dans des fuites en avant, alors qu'il faut repenser la façon de produire. Et heureusement, on a des agriculteurs qui font autrement et qui nous permettent de capitaliser des réponses qui fonctionnent. Eh bien, tout cet argent public qu'on est en train de mettre dans des fausses bonnes réponses qui sont bloquées dans le XXe siècle,
devrait servir à tous les agriculteurs qui s'engagent dans l'agroécologie. Je rappelle que ces équipements ne s'adressent qu'à des irrigants qui ne représentent que 6% des agriculteurs.
On va en parler après une courte pause, Benoît Bitot. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur l'eurodéputé. On marque une courte pause et on continue notre conversation sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous sommes avec le porte-parole de Territoire de Progrès, allié de Renaissance, Édouard Dorian-Sipel et Benoît Bitot, député européen écologiste, ingénieur agronome. Il était ce week-end à Sainte-Soline où des militants écologistes ont manifesté parfois violemment contre des méga-bassines. Des méga-bassines que Benoît Bitot qualifie d'aberration. Hein. Je résume un peu votre propos avant la pause. J'aimerais qu'on écoute Ronan. Il nous appelle de Bretagne. Il est agriculteur et lui, il a un avis très différent. Ronan, bonsoir. Avez-vous une question à poser ce soir à Édouard Dorian-Sipel et Benoît Bitot?
Une question, non. Une constatation, oui. Simplement, les bassines font partie d'un panel de solutions qui nous permettra d'aborder l'avenir suite aux modifications climatiques qu'on voit actuellement.
La sécheresse en particulier, hein, si j'ai bien compris.
La sécheresse, voilà. Et cette eau qui est collectée dans ces bassines, qui est soit pompée dans la nappe phréatique, soit recueillie par dérivation, ça n'est pas de l'eau fossilisée, c'est de l'eau qui se renouvelle, de l'eau qui tombe, qui effectivement pénètre les nappes phréatiques et qui est pompée dans les nappes phréatiques et qui est stockée pour la réutilisation en été. Ensuite, je vois bien le mouvement actuel des gens qui ont manifesté à Sainte-Soline contre quelque chose, comme disait un de vos interlocuteurs, qui était légalement autorisé, et qui se compare aujourd'hui à des résistants. Ces gens-là se comparent à des résistants, mais on n'est pas du tout dans la même situation que les résistants pendant la guerre pendant la dernière guerre. Il faut revenir un petit peu à la raison. Ces gens-là font de l'agitation. Je suis assez d'accord avec Darmanin quand il dit que, d'une certaine façon, c'est de l'écoterrorisme. Oui, quand on détruit un bien privé ou un bien public, quand on le détruit sciemment, eh bien oui, hein, c'est une forme de terrorisme. Et là, on essaye de recréer une forme de ZAD, un petit peu comme à Notre-Dame-des-Landes. Moi, je ne suis pas très loin de Notre-Dame-des-Landes. On a connu un petit peu ce mouvement. Eh bien, je pense que c'est extrêmement grave par rapport à l'état de droit, qui bien souvent, ces mêmes personnes invoquent l'état de droit si les décisions de justice leur sont favorables. Là, les décisions de justice ont été favorables à la construction de ces bassines. Alors là, l'état de droit, il ne vaut plus rien.
Merci de votre contribution, Ronan. Je rappelle que vous êtes agriculteur. Benoît Bitot, si vous voulez peut-être répondre à Ronan.
Oui, deux choses.
Très
déjà, clarifier le débat. En vérité, il n'y a personne contre l'irrigation, contre le stockage de l'eau. Il faut quand même être conscient de ça. Ce qu'on demande, c'est un juste partage de l'eau.
Vous nous parlez d'aberration, Benoît
Bitot. Oui, mais c'est une aberration parce que les agriculteurs qui aujourd'hui veulent pouvoir s'appuyer sur de l'eau pour irriguer sont précisément les mêmes qui ont effacé les méandres des cours d'eau, effacé les zones humides, effacé les zones d'épandage de crues, effacé les arbres, qui fait que justement cette eau, quand elle tombe sur les bassins versants, ne peut plus s'infiltrer, ne peut plus rentrer dans les nappes phréatiques pour les recharger, et qui hurle au scandale parce que l'eau part à la mer alors que c'est eux qui ont créé les autoroutes de l'eau.
Mais pardon, pardon.
Alors, oui, mais je finis. Je finis mon raisonnement.
Oui, mais si vous prenez votre parole...
Non.
Moi aussi, j'ai des raisonnements longs, mais je pense qu'il faut qu'on fasse court.
J'ai juste une phrase, c'est que si on restaure ces capacités de percolation de l'eau vers les nappes, eh bien, effectivement, on pourra à nouveau développer des logiques d'irrigation.
Non, mais c'est pas le sujet, on n'est pas sur le fond.
Mais si, parce que les préalables
sont pas... Non, monsieur, pas quand on est dans une démocratie... Je suis désolé, vous êtes député européen. Moi, je veux bien toutes les formes de contestation. Et je vais vous répondre parce que moi, je pensais que les recours étaient épuisés. C'était l'information
non,
que j'avais.
Mais
je vais
cas.
Vous dire, si c'est vous qui avez raison, et je veux bien tout à fait prendre votre parole pour la vérité, nous vérifierons. Si les recours ne sont pas épuisés, c'est une raison supplémentaire pour ne avoir aucune raison d'aller vers des violences, vers une manifestation qui détruit le bien public ou le bien la bassine. Je ne dirais pas de mon côté éco-terrorisme, mais je pense quand même que ce sont des pratiques de type de sabotage. Voilà. Je pense que si précisément par les voies de recours démocratiques et devant la justice, dans les juridictions compétentes, vous pouvez encore vous battre, aucune justification des destructions, qui pour moi de toute façon ne sont pas tolérables dans une démocratie, c'est encore moins justifiable. Hein. Donc sauf je crois que alors, travaux, là, on va dire quelque chose, que Benoît, on va dire quelque chose de toute façon.
Précisons que Benoît Biteau est plutôt proche de Yannick Jadot.
Oui, mais attendez,
eh ben,
tant mieux. Tant mieux, mais attendez, alors, juste j'ai... un mot, parce qu'on parlait de Lula tout à l'heure et la question de la désobéissance, qui est une question politique qui mérite d'être débattue. Voyez-vous, même Lula au Brésil, avec Bolsonaro et le pouvoir d'extrême droite qu'il incarnait, jamais Lula n'a cédé à une forme de désobéissance civile. Il a mené la lutte politique, démocratique, et c'est comme ça qu'il a gagné. Je pense que l'écologie, si elle veut devenir un grand mouvement politique, elle doit aussi respecter les règles de la démocratie. Convainquez comme scientifique, convainquez comme politique, mais de grâce, ne cédez pas à une forme de violence juste parce que tel groupe pense avoir une vérité contre le droit.
Alors
ça, c'est un problème qu'on, auquel
Jean-Marc
on ne peut pas
nous
céder.
Appelle. Jean-Marc nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Jean-Marc.
Oui,
alors
bonsoir.
Vous avez une conscience écologique, on peut le dire, et vous, le terme éco-terrorisme employé par le ministre de l'Intérieur ne vous choque pas? C'est-à-dire que la violence, pour vous, parasite un peu le mouvement, hein, si j'ai bien compris.
Alors, en fait, oui, en fait, il y a un débat technique sur le bon format de ces retenues d'eau, mais effectivement, il y a une urgence à retenir l'eau, parce que le changement climatique est réellement là. Le premier qui en a parlé, c'est René Dumont, effectivement, qui s'était présenté au présidentiel. Moi, ce que je remarque dans cette histoire, c'est que quand on fait marcher les réseaux sociaux sur ce genre de manifestations, on attire les black blocs et on cherche la bagarre, on cherche à retourner, voilà. Alors que effectivement, il y a moyen de se battre différemment. Moi, je me suis battu pendant 30 ans contre les incinérateurs. On était très peu, on était une poignée de même contre les Verts, puisqu'ils étaient pour les incinérateurs à l'époque. On a gagné, on a eu gain de cause, le recyclage et tout ça. Il y a des moyens de faire valoir ses droits en France, dans cette démocratie, et tous ceux qui disent que c'est pas une démocratie, oui, c'est une démocratie, et il y a moyen de faire valoir ses droits et de faire comme moi. La dernière dernière bagarre que j'ai menée, c'est sur le biosourcé. Le biosourcé, c'est rentrer aujourd'hui dans la RE 2020, pardon, mais je peux dire, voilà, que je suis, moi, totalement révolté par le fait qu'on ne gère plus rien. On va faire des manifs, on va faire des blocages et couper.
Merci
couper
Jean-Marc. On va entendre Benoît Biteau réagir à vos propos. Édouard Dorian Cipel, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, parce que vous savez, c'est pas totalement nouveau, ça prend des formes nouvelles. Mais moi, je vais vous citer une personnalité politique qui a pris un peu ses distances avec la vie politique, que j'apprécie beaucoup pour certains de ses combats, mais dont j'étais d'accord avec certaines de ses méthodes. C'est José Bové. Je veux dire
pas
que
toujours pacifique.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'était je démonte des McDonald's, j'arrache des champs OGM de manière illégale. Donc je pense qu'il y a des combats qui méritent de meilleures formes d'influence, de meilleures formes de mobilisation. Je crois qu'on peut inventer autre chose que la violence et la destruction face à des projets qui sont légalement permis. Je trouve qu'on rate toujours quelque chose de fondamental, c'est toujours dangereux de nier et d'aller à l'encontre de décisions démocratiquement prises. Je pense qu'il faut se battre dans ce cadre-là. L'écologie politique ne peut pas être prise en otage par une minorité radicale qui est prête à aller jusqu'à la violence.
Alors, Benoît Biteau, député européen écologiste, on ne vous a pas entendu sur les violences. Je précise pour nos auditeurs que vous êtes plutôt proche de Yannick Jadot plus que de Sandrine Rousseau. On a l'impression qu'il y a une lutte intestine au sein d'Europe Écologie Les Verts.
Je vais même pas commenter ça.
Moi, on le précise.
Je vais revenir sur... Il s'avère que José Bové, c'est un très bon ami à moi. Oui, c'est un très bon ami à moi et qu'il était à la dernière manif, justement, sur les bassines. Et les 7000 à 8000 personnes qui étaient là. Les 7000 à 8000 personnes qui étaient là étaient des familles, des pacifiques. Et non, mais c'est pas interdit dans la mesure où on est sur la préservation d'un bien commun.
Mais
écoutez-moi,
j'ai 43
secondes, vous pouvez me laisser finir, je vous ai pas interrompu. Le sujet, c'est que les recours sont déposés, il y a déjà des bassines qui sont terminées et pour lesquelles on a gagné tous les recours, sauf que les équipements sont terminés. C'est ça qu'on ne veut plus. Et il n'y a eu aucune destruction. L'équipement, pour le moment, c'est un cratère. Qu'est-ce que vous voulez qu'on détruise?
On a vu des tuyaux arrachés, pardon, alors peut-être que c'est l'image fausse, on a vu des tuyaux arrachés.
Il y a un tuyau qui a été coupé.
Je sais pas. Des provocations avec les CRS, j'ai vu une députée avancer sur les CRS. Je trouve que tout ça, c'est un mauvais jeu à jouer, franchement, ça mène nulle part.
Mais on est dans les mêmes, pourtant, dans les mêmes méthodes que José Bové. On est dans les mêmes méthodes que José Bové. J'étais faucheur volontaire avec José Bové.
Non,
on est exactement
dans les
mêmes.
Ces histoires de démontage de McDonald's, je vois pas à quoi ça mène, les démontages de McDo. Il y a toujours des
laissez-vous
McDo
parler, Benoît Bito, concluez très vite, s'il vous plaît, parce que.
Je dis juste que les 7000 à 8000 personnes qui étaient là ne sont pas des personnes violentes. Et on ne peut pas cesser de manifester parce que certains violents, récupèrent des mouvements comme ça. Ces gens-là sont des gens qui veulent préserver le Marais Poitevin, j'en ai parlé, qui est une zone humide remarquable, veulent préserver une ressource qui, dans la loi, est présentée comme notre patrimoine commun. Ils en veulent un partage équitable et ces bassines ne le permettent pas, malgré le fait qu'on y met beaucoup, beaucoup d'argent public au détriment de l'accompagnement de l'agroécologie qui pourrait concerner tous les agriculteurs. Je rappelle, ça ne concerne que 6% des agriculteurs.
Et vous aurez le mot de la fin. Merci Benoît Bito, député européen écologiste.
Merci
Édouard Dorian Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès, allié de Renaissance, la majorité présidentielle.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.